Parlons de Molière. L'auteur qui fait des pièces et qui les joue lui-même, s'il fait des chefs-d'œuvre et s'il les interprète, il devient alors et de toute évidence un auteur accompli.
Dans notre semaine Molière, le quatrième épisode, comédie-ballet, comédie-mêlée.
Molière, je trouve, est un peu comme dit Célimène à Alceste, un grand extravagant et quelqu'un qui aimait la démesure, qui avait des spectacles absolument insolites, où on mélangeait tous les genres, où la musique était tout le temps présente. Donc, quelqu'un qui a fait des spectacles absolument baroques, sublimes, étranges. Donc, c'est ce côté extravagant de Molière qui me passionne, et en plus le côté directeur de troupe avant tout.
Ainsi parlait Maurice Béjart, chorégraphe. Les comédiens de Molière savaient non seulement jouer, bouger, mais ils dansaient très bien. En 1661, il écrit pour eux Les Fâcheux, un ballet qui s'accommode à la comédie autant qu'il est possible, note La Fontaine. La Fontaine, c'est un client de Fouquet. C'est dans le sillage de Fouquet qu'il assiste à la représentation, dans le cadre de l'inauguration de Vaux-le-Vicomte, des Fâcheux. L'arrestation du surintendant survient aussitôt après. Molière n'en a cure. La formule des fêtes qu'utilisait Fouquet va devenir celle des divertissements de Versailles. Et pour sa part, il se trouve très bien, Molière. Il n'y a que le temps qui lui manque cruellement pour honorer les commandes du souverain. Œuvre après œuvre, il dispose un public plus large encore que celui de la cour à la comédie mêlée, la comédie ballet. Dans les derniers temps, il en propose davantage que de pièces à texte seul, on dit les comédies unies. En 1671, dans la grande salle des machines des Tuileries, c'est même une tragédie ballet Psyché qu'il présente devant 6000 spectateurs. Il l'a préparée avec Lully et Beauchamp, le directeur de l'Académie royale de danse. On ne sait pas, à vrai dire, quel nom donner à ce théâtre qui cherche à contenir tous les divertissements. Il n'y a qu'un terme qui ne convienne pas, c'est celui d'opéra que Lully se réserve dans la jeune Académie royale de musique dont il hérite. Dans le championnat pour la gloire de Louis XIV des premières années 1670, chaque participant doit dorénavant courir dans son couloir. Mais l'obligation qui est faite à Molière de remplir ses salles avec des pièces uniquement parlées ne l'empêche pas d'entremêler son malade imaginaire d'intermèdes qui sont confiés à Charpentier. Jamais jusqu'à sa mort, proche maintenant, il ne s'avouera vaincu.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Georges Forestier, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle qu'avec Claude Bourqui, vous avez édité les deux volumes du théâtre complet de Molière aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Eh bien, parlons de plaisir, parce qu'au fond, ce qui motive tous les genres théâtraux, y compris la tragédie, au XVIIe siècle, c'est le plaisir de la fête. Le seul but de la tragédie, il l'appelait poésie dramatique, disait Corneille, c'est de plaire au spectateur.
Exactement. Provoquer les émotions chez le spectateur. C'est déjà ce que disait Aristote dans sa Poétique, qui est la Bible de tous les hommes de théâtre de l'époque. Et il faut provoquer du plaisir, un plaisir paradoxal, puisqu'il faut faire pleurer et avoir peur, la frayeur et la pitié, dont le but c'est de provoquer du plaisir.
Oui, parce que jouer en pleurant quand on dit qu'on pleure, ce serait beaucoup trop simple.
Oui, mais le spectateur
doit
pleurer.
Être paradoxal.
Le spectateur doit pleurer. Moi, j'explique toujours à mes étudiants que s'il y a des gens qui sont allés voir 20 fois Titanic, c'est parce qu'ils prennent plaisir à pleurer. Sinon, c'est terrible de pleurer dans la vie. Donc, c'est un plaisir paradoxal. Et c'est ce que cherchent à théoriser, justement, tous les hommes depuis Aristote.
C'est un plaisir paradoxal que de devoir remplir, dans un délai très court, une commande impérative du roi qui veut se faire plaisir alors qu'on peine à la tâche quand on s'appelle Molière.
Mais oui, mais Molière qui a grandi, si je puis dire, sa maturité est venue dans les milieux galants qu'il a fréquentés dès son retour à Paris. Et là, chez les milieux galants, l'art de l'art, c'est l'impromptu. Et que dit-il au début de l'avertissement des fâcheux, dont vous avez parlé en commençant ? 1661, chez Fouquet. Et Fouquet lui commande la pièce 3 semaines plus tôt. On sait déjà que Beauchamp a des entrées de ballet qui sont prêtes. Il faut articuler les deux. Et Molière dit « Jamais entreprise au théâtre ne fut si précipitée que celle-ci. Et c'est une chose, je crois, toute nouvelle qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise et représentée en 15 jours. » Et il ajoute « Je ne dis pas cela pour me piquer de l'impromptu. C'est le grand art. Faire vite pour la cour, faire vite pour les salons, c'est...
Ne pas donner l'impression de travailler
exactement.
Alors qu'on travaille d'arrache-pied.
Exactement, c'est ça.
Et c'est tout le temps le même rite. Vous disiez 15 jours entre la commande de Fouquet et la représentation
Vaux le Vicomte, vous me direz, il y aura une semaine entre la représentation à Vaux le Vicomte et l'arrestation du Saint-Intendant. Ici, on est dans l'impromptu tel qu'il est donné à la Comédie française, l'impromptu de Versailles, avec dans le rôle de Molière, nous sommes en 1971, Jean Piat.
Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer. Et que feriez-vous donc si vous étiez en ma place? Et pensez-vous que ce soit d'une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci, que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et ne rient que quand elles veulent?
Mais si cela vous faisait trembler, vous prendriez mieux vos précautions et n'auriez pas entrepris en 8 jours ce que vous avez fait.
Le moyen de m'en défendre quand un roi me le commande.
Le moyen? Une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose, dans le peu de temps qu'on vous donne.
Mon Dieu, mademoiselle, les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles. Les choses ne sont bonnes que dans le temps qu'ils les souhaitent, et leur en vouloir reculer le divertissement est en ôter pour eux toute la grâce. Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point attendre.
Voilà, il fallait pas remettre à cette année ce qui pouvait être fait l'année passée.
Oui, même si quelquefois il a accepté de reculer de 15 jours quand il y avait des grandes fêtes qui nécessitaient un tel déploiement, et il s'est soumis, bien sûr, le roi.
Alors les grandes fêtes, 1661, Vaux le Vicomte, c'est pas la première.
Non, il y a eu déjà 2 ans plus tôt, chez Hugues de Lyonne, le ministre des Affaires étrangères, à Berny, dans son château, une grande fête où il y avait de la même manière tragédie, collation, ballet et feu d'artifice terminal.
Le soleil offusqué donne à son tour de grands divertissements sur le modèle amplifié de Fouquet. Alors Versailles, 1668, le grand divertissement. Vous publiez dans un des 2 volumes de La Pléiade la description par Félibien, par le menu de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Sur combien de jours?
Une grande journée, en fait.
Une longue journée.
C'est pas comme en 64, les plaisirs de l'île enchantée qui se déroulaient sur 3 jours, suivis d'un appendice de 4 journées. Là, c'est...
Vous le Vicomte, ça s'était terminé à 4h du matin.
Voilà, exactement.
Alors, il y a beaucoup à manger, des collations, qui sont préparées par un maréchal, le maréchal de Bellefond, qu'on retrouvera après en pénitence à la trappe. Là, il sert des oranges du Portugal et toutes sortes de fruits dans une multitude de corbeilles.
Voilà, avec des tables qui sont réservées dans un premier temps et après qu'on abandonne au pillage, c'est la grande expression.
Le pillage du commun.
C'est-à-dire le reste de la cour, parce que les tables sont réparties entre les plus grands seigneurs et les plus grandes dames de la cour. Les autres attendent et ensuite ils se livrent au pillage.
Et alors ça se passe dehors, sous des tentes, on va avoir une description.
Qui sont très rapidement montées, et ça Gérald Félibien souligne combien les ouvriers ont exécuté l'ordre du roi en rien de temps, exactement comme Molière. Je veux dire, c'est le leitmotiv, le roi ordonne et derrière tout le monde dispose.
Voici la description de la manière dont s'inscrit une pièce qu'on joue maintenant unie, isolée, Georges Dandin. De Molière dans ses grands divertissements, et la description est faite de manière magistrale à la télévision dans le journal de Paris en 1968, un peu avant mai, par Madame Béatrix Dussane, sociétaire du Français.
Le grand divertissement royal, il en est dans le parc, à un rond-point qui existe toujours d'ailleurs. Il faut prendre l'allée qui descend à la gauche du tapis vert. Il y a 2 ronds-points, 2 intersections, et c'est dans le premier de ces ronds-points en haut que le décor a été dressé. Ça, on a tous les détails. Et c'est dans les entr'actes de ce grand divertissement royal que le pauvre Molière a dû placer les 3 actes de sa comédie.
Et est-ce que cela n'a pas nui, justement, alors à la compréhension de la pièce?
Complètement. Nous ne pouvons pas imaginer une pièce réaliste et en somme avec des dessous assez sombres, comme nous la voyons maintenant, en intermède d'un ballet, elle se serait effondrée elle-même. Et il y a un tout petit indice qui me paraît curieux. On a le costume, il existait encore à l'inventaire de Molière après sa mort. On a ce costume de Georges Dandin. Il est en soie, mais il est garni de dentelles d'argent et de boutons d'argent. C'est donc un costume qui doit faire riche, évidemment, dont Dandin a de l'argent, mais pas du tout paysan, et probablement pas du tout réaliste. Donc, la pièce devait être emporté un peu dans l'éclairage du ballet, et donc transposé, et on pourrait dire un peu irréalisé ou désincarné, enfin délesté d'une part de sa charge d'humanité.
Délesté d'une part de sa charge d'humanité, mais en même temps allégé par la lumière, le strass, le côté étoile. On a du mal à admettre que Dandin a été créé dans ces conditions.
Et j'irais même plus loin, c'est que c'est quand Madame Dussane disait que le pauvre Molière a été contraint, il faut savoir que Molière a composé les paroles de la pastorale qui se chante sur la musique de Lully. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du spectacle est de Molière et Lully. Et donc, c'est pleinement avec la plus grande conscience qu'il a écrit les deux à la fois. Je veux dire, il n'y a pas de, comment dirais-je, de contradiction. Il a joué sur le contraste, bien sûr, l'effet de contraste entre le paysan qui cherche l'anoblissement, se mariant avec la fille de nobliaux locaux, etc., et qui va se retrouver gros gens comme devant, évidemment, parce qu'il a voulu péter plus haut que son cul, comme on dit. Mais
et s'appelait Monsieur de la Dandinière.
Exactement. Mais il se trouve que le côté déréalisé, il est conçu par Molière. C'est exactement comme dans Le Malade imaginaire, où on a un magnifique prologue dont on reparlera peut-être, et ensuite on a le malade qui est seul devant sa table, qui compte ses sous et ses ordonnances et ce qu'il doit, etc. Molière joue là-dessus.
Mais aux Français, on le joue comme une pièce assez sombre, vous avez entendu.
Ah, bien sûr,
l'expression de Béatrix Dussane, quand on voit les représentations au Vieux Colombier qui ont lieu présentement dans une scénographie rustique, sombre, justement, d'Éric Ruff, c'est devenu une pièce de satire sociale.
Oui,
Georges Dandin, il est moqué par les nobliaux, il a eu tort de vouloir se hisser à un niveau qui n'est pas le sien, et le sort lui est cruel.
Bien sûr, mais en fait, la cour se moquait de tous les personnages de ce type de pièce, parce que justement, ce sont que des anti-galants. Entre le paysan riche qui veut devenir noble, les petits nobliers de province qui ne savent pas ce que c'est que l'élégance galante de la cour, etc. La cour riait de tous les personnages. C'est pas Georges Dandin lui seul qui est satirisé. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que l'ensemble, comment dirais-je, festif de cette pièce se termine par le fait qu'on reste toujours sur l'idée que lorsqu'on joue la pièce seule, comme on en a pris l'habitude depuis le XVIIIe siècle, on a ce pauvre Dandin qui va aller se pendre, en quelque sorte. Mais il faut savoir que lorsqu'on joue la pièce avec le ballet, eh bien, les bergers viennent prendre Dandin par le bras et l'emmènent dans leur fête. Je veux dire, ça se termine par une grande fête. Et c'est la raison pour laquelle le costume de Dandin est un costume de berger, précisément.
Avec des boutons d'argent, voilà. Et un côté éblouissant. Alors ça, c'est une comédie mêlée. C'est une comédie ballet. Qu'est-ce que c'est que ces mots ?
Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'on a mis très longtemps à pouvoir définir la chose. Parce que il se trouve que lorsqu'on regarde les débuts de Molière dans l'illustre théâtre dont nous avons parlé le premier jour,
1643,
voilà, eh bien, on sait qu'ils ont engagé des danseurs et des musiciens. C'est-à-dire que c'est écrit spécifiquement pour des ballets. C'est-à-dire que lorsqu'ils savaient que lorsqu'ils seraient invités chez Gaston d'Orléans, leur premier protecteur, le frère de Louis XIII, eh bien, ils risquaient de devoir jouer dans les intermèdes, dans les entr'actes de leurs pièces, des divertissements. À la cour, en 1669, Britannicus est créé à la cour avec de la symphonie, comme on disait, c'est-à-dire avec, entre chaque entr'acte, de longs passages de musique composés par Lully. Donc, cette idée d'alternance du texte parlé et de la musique, c'est pas une invention de Molière, c'est une pratique récurrente dont Molière va chercher à, comment dirais-je, à marier le plus harmonieusement possible les deux à la fois.
Mariage au sommet, vous avez prononcé plusieurs fois le nom de Lully pour la musique, et alors Beauchamp. Pour les ballets.
Pour les ballets, oui.
Beauchamp, c'est...
C'est le maître à danser, le principal maître à danser. C'est celui qui va diriger donc l'Académie
Royale
de la
danse.
Oui. Et c'est celui qui est de tous les grands ballets. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que si la France a été si longtemps rétive à l'opéra, et l'opéra italien, c'est qu'il y avait un genre spécifiquement français qui était le ballet de cour, c'est-à-dire dans lequel l'aristocratie et le roi le premier faisaient des entrées sur un thème, une sorte de pièce à thème dans laquelle on ne faisait que danser.
Sommet en 1671, c'est mieux qu'une comédie ballet, c'est une tragédie ballet. On y retrouve bien sûr Beauchamp et bien sûr Lully. Le titre c'est Psyché, ça va être joué aux Tuileries, c'est préparé ici, si on en croit ce dialogue extrait de Molière pour rire et pour pleurer de Marcel Camus, par Lully soi-même et Molière soi-même.
J'espère que votre majesté nous fera la grâce de danser encore.
Non, je ne veux plus me produire en public. Molière, tu vas m'écrire quelque chose où je ne danserai pas.
J'ai en tête une comédie d'après la légende de Psyché.
Je te laisse la liberté du sujet. Mais je te demande seulement d'y mettre des Turcs.
Des Turcs ?
Oui. Ces messieurs les ambassadeurs du Grand Turc nous ont bien divertis l'autre jour. Je veux des Turcs.
Nous pourrions remettre les Turcs à plus tard, sire.
Non, je les veux tout de suite.
Mais, sire...
Tais-toi, Molière. Je t'ai encore protégé cette semaine contre tes ennemis. Pour me remercier, tu vas m'écrire cette bouffonnerie.
Mieux encore, on va atteindre un sommet en 1671 avec une tragédie ballet. Ce sera Psyché. Psyché qui va être joué aux Tuileries, avec bien sûr Beauchamp, déjà cité par Georges Forestier, et bien sûr Lully. Nous sommes ici à l'acte 5, la quasi-dernière scène avec l'orchestre et les chœurs du Festival de musique ancienne de Boston.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
C'est un méga spectacle, hein, Psyché.
C'est vrai.
Il y a 6000 spectateurs dans la salle des machines des Tuileries.
C'est une salle gigantesque dont l'acoustique du coup était déplorable. Entre le bruit des machineries conçues par les Italiens Vigarani, père et fils, et la taille de la salle, l'acoustique était déplorable. Ce qui veut dire que depuis Ercole Amante, un opéra italien créé en 62, et l'hiver 70-71, plus aucun spectacle n'avait été créé dedans.
Mais enfin, la salle des machines des Tuileries siégera l'Assemblée à son retour de Versailles en 1789. Les députés arriveront bien à se faire entendre, peut-être avait-elle été aménagée. Il y a 327 personnages sur la scène.
Oui. Des chœurs.
On va faire comme les médias modernes, voilà. On va donner les chiffres. 70 danseurs, 120 instrumentistes dans l'orchestre. Ouais. C'est énorme.
En fait, le point de départ, c'est que on a décidé qui a fait penser à ça au roi. On ne sait pas si c'est le roi qui a pensé lui-même, mais il restait les décors gigantesques de Vigarani pour Ercole Amante. Et on a demandé, en fait, à Molière de concevoir un spectacle dans lequel il y aurait une descente aux enfers comme dans Hercule amoureux, Ercole Amante de 62. Et donc c'est pour réutiliser une série de décors des enfers qu'on a songé à un sujet où il y avait quelqu'un qui descendait aux enfers, c'est-à-dire Psyché.
Mais il n'y est pas parvenu tout seul à versifier l'ensemble.
Alors, c'est en décembre qu'ils ont eu l'idée, il fallait que ce soit créé pour le carnaval, puisque vous savez qu'après le Mardi Gras, on cessait les spectacles à la cour. Et que donc, le laps de temps était très réduit, et donc il a fallu songer à la musique, composer des paroles pour la musique en premier pour que Lully puisse s'adapter à cela, et ensuite composer les vers pour la tragédie. Et Molière n'a eu le temps que de faire le canevas entièrement en prose, parce que c'est comme ça qu'on composait à l'époque. On composait tout en prose, jusqu'à dans le détail des répliques et des échanges, des dialogues. Mais oui, monsieur. Et après, la versification pour des gens qui avaient fait les collèges, notamment les collèges jésuites et les collèges des oratoriens, où on apprenait constamment à faire des vers, c'était rien du tout. Et
donc, parce que vous nous répétez tout le temps, comme vous le savez, mais on ne le sait pas, justement.
Mais oui, mais c'est comme ça. Donc, tous les traités de l'époque expliquent que on compose d'abord en prose et ensuite on versifie. Ce qui fait que Molière n'a eu le temps que de faire le plan et la prose entière et les répliques et les dialogues. Et ensuite, lui-même n'a pu versifier que le premier acte, la première scène du deuxième acte et la première scène du troisième acte. Et là, il avait deux solutions. Soit comme pour la princesse d'Élide en 1662, demandé aussi par la cour, par le roi, dans l'urgence, laisser le reste en prose. Et c'est le cas de la princesse d'Élide. Soit, comme ça doit être un spectacle absolument réussi de bout en bout, demander à quelqu'un de versifier la fin. Et il a demandé à Corneille, qui à ce moment-là, quoique désigné comme le plus grand poète du monde, était un peu à l'écart, il était très content de rentrer dans le jeu grâce à cette demande de Molière.
Molière qui admirait beaucoup Pierre Corneille et qui avait interprété des pièces de Thomas et de Pierre Corneille dans sa jeunesse errante. Comme quoi, ce spectacle, c'est la synthèse de tous les divertissements, étant donné que la tragédie est aussi quelque chose qui divertit et qui doit plaire. Après, il va y avoir une bifurcation.
Oui, parce que à ce moment-là, il y a deux choses. Molière est aussi un entrepreneur de spectacle qui reprend Psyché sur son théâtre. Il convainc ses compagnons, ou ses compagnons sont d'accord d'emblée, pour casser le théâtre et le mettre en mesure d'accepter un orchestre, de la musique, de la meilleure manière que le théâtre était organisé jusqu'alors. Donc on casse le Palais Royal. Ça, c'est cette occasion que Molière écrit rapidement les faubourgs de Scapin pour pouvoir occuper la scène rapidement. On casse le Palais Royal, on le dispose pour pouvoir créer de nouveau Psyché. Et Psyché va rester un an et demi à l'affiche. C'est un des plus grands succès de la carrière du Palais Royal. Sauf que Lully ne touche pas un centime, si je puis dire.
Un sol
là-dessus. Et du coup, il se rend compte qu'il faut lui-même qu'il devienne un entrepreneur de spectacle. Et là, il a la chance qu'un concours de circonstances fait qu'il peut reprendre, avec l'aide de Colbert et de la bienveillance du roi, évidemment, le privilège de l'Académie royale de musique. Et du coup, il propose à Molière de continuer à collaborer avec lui, mais à ses conditions à lui. Et Molière, qui ne veut pas passer à un théâtre qui ne serait que chanté, parce que le rêve de Lully, c'est d'adapter à la France l'opéra italien, puisque l'opéra italien, on ne fait que chanter. Molière veut rester un auteur de théâtre parlé, qui fait la synthèse avec la musique, la danse, etc.
Quand même, je vous trouve un certain penchant à expliquer les choses toujours par la matérielle. Vous aviez expliqué hier que Don Juan est écrit en fonction des décors, que c'est marqué dans les contrats de notaire, dans les accords entre les décorateurs et Molière. Maintenant, vous nous expliquez qu'au ressort de la bifurcation entre Lully et Molière, il y a des affaires d'argent mal réglées.
Bien sûr. Et aussi quand même une conception esthétique. Ah. Puisque Molière ne veut pas lâcher la comédie unie. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est alterner la musique, la danse, le chant et la parole. Alors que Lully, ce qu'il veut, lui, c'est faire un opéra italien à la française, c'est-à-dire entièrement chanté. Et donc, la séparation se fait là. Lully obtient ce qu'il veut, il va faire un opéra à la française. Il obtient même le monopole des créations de théâtre en musique, obligeant tous les autres théâtres à soit supprimer leur musique, soit réduire considérablement 2 chanteurs, 6 violons maximum, etc. Molière va réussir, grâce à la faveur du roi, que le roi lui maintient, à obtenir évidemment un assouplissement autant qu'il veut pour son propre théâtre. Mais du coup, le roi ne peut plus commander à Molière, comme les années précédentes, systématiquement depuis des années, un nouveau spectacle pour le carnaval. C'est à Lully qui doit le demander.
Mais je note quand même que Molière ne s'avoue pas vaincu. Il ne se présente aucunement comme disgracié. Il est comme dans un couloir d'athlétisme, un champion qui continue à concourir pour le roi.
Le roi, dans l'Ancien Régime, c'est le garant des privilèges. Donc, en accordant à Lully le privilège de l'Académie royale de musique, il s'est lui-même lié les mains. Il est obligé de sauvegarder lui-même le privilège de Lully. Donc, il ne peut pas demander à Molière de créer un spectacle pour la cour, désormais. Donc, Molière, lui, il veut s'efforcer d'inverser le système. C'est-à-dire qu'avant, on commençait par la cour et on finissait par la ville. Donc là, il va tenter le coup de créer un spectacle, une comédie-ballet à la ville, avec l'espoir qu'elle sera reprise à la cour. Ce sera le cas. Le Malade Imaginaire va être repris 1 an après sa mort, à Versailles, lors d'une grande fête, la dernière grande fête du règne.
Alors, le prologue du Malade Imaginaire. Laissons là sa gloire, nous devons penser à ses plaisirs, chantent les uns et les autres. Vous connaissez les paroles par cœur, parce que vous me dites que régulièrement, aux grandes dames de vos voisins, toutes fenêtres ouvertes, vous écoutez le prologue du Malade.
J'écoute notamment la fin du prologue du Malade Imaginaire,
qui dit
« Louis est le plus grand des rois ». Avec un jeu d'écho, puisque ce sont des bergers qui demandent aux échos de redire 1000 fois « Louis est le plus grand des rois ».
Au fond, ça sonne comme un hymne national avant un début de représentation. C'est quand même étrange, ce motif récurrent. Pour chanter de Louis l'intrépide courage, il n'est point d'assez docte voix, point de mots assez grands pour en tracer l'image. Donc, nous construisons sa gloire, disent les comédiens de Molière, en construisant ses plaisirs et en les chantant.
En gros, il y a d'un côté les historiographes et les panégyristes, et de l'autre, ceux qui contribuent au plaisir du roi en le divertissant. Ce qui n'empêche pas que, comme on vient de l'entendre là, il y a un système qui se met en place, qui est le prologue, qui va devenir systématique dans l'opéra à la française jusqu'au XVIIIe siècle, qui est un prologue à la louange du roi. Ça fait partie du système. Et Molière l'a très bien compris, et c'est pas qu'il cherche à flatter le roi à tout prix, c'est parce que, désormais, dans ce type de spectacle, on doit commencer par un éloge musiqué du roi.
Je veux bien que vous nous fassiez lire et entendre le malade comme cela maintenant, mais il reste l'os, la source, le personnage du malade, et on retrouve chez lui des traits qui apparaissaient déjà dans Tartuffe, dans Don Juan, à y regarder de près. C'est une pièce passablement matérialiste,
oui, bien sûr,
que le malade imaginaire, parce qu'il sera délivré de ses craintes, le malade, que quand il comprendra que l'âme humaine est seulement matérielle.
Exactement, et quand il comprendra que ceux qui cherchent à lui imposer des remèdes et des traitements sont des gens qui cherchent à l'aveugler, que ces gens-là sont habillés de noir, qu'ils parlent latin, et c'est là qu'on comprend que lorsque, après Tartuffe, Molière se rend compte que même malgré la protection du roi, on ne peut plus jouer la religion sur le théâtre, eh bien, il va dériver vers les médecins. C'est-à-dire que si les médecins apparaissent en 1665, c'est pas parce qu'ils tombent malades, ils ne tombent pas plus malades que ses contemporains, que la moindre fièvre couchée pendant un mois. Il se met à jouer avec la satire des médecins parce que la médecine, c'est l'équivalent de la religion. Et que, évidemment, que les libertins, les incrédules et les gens éclairés le savent.
Critique de la médecine à lire comme une critique de la pratique religieuse.
Ils n'entendent point. Ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Ils sont sourds. Toinette ! Voilà, voilà ! Drolin, vous me laissez mourir ici tout seul.
Et il rit les spectateurs dans la version Le Roi danse de Gérard Corbiot. Ils ne savent pas que le malade va mourir. D'ailleurs, Molière lui-même ne le sait pas, parce qu'il n'est pas atteint, selon vous, d'une maladie chronique qui s'aggrave. Mais on en a déjà parlé. Je préférerais que d'un mot, vous nous disiez ce qu'il y a dans l'inventaire après décès en 1673 que vous publiez dans les volumes de la Pléiade. Il a fallu plusieurs jours au notaire pour le mener à bien.
C'était l'usage, hein, on venait sur place et surtout lorsqu'on passait de la cuisine au comble, et évidemment nous ce que nous avons publié c'est ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la bibliothèque de Molière et les costumes de Molière. Et ce qui est évidemment très intéressant, c'est qu'on a tous les costumes, enfin la plupart des costumes des pièces qu'il reprenait, sauf le malade imaginaire, puisque le malade imaginaire, le costume était au théâtre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit justement que les cinq ganarelles qu'il joue, depuis le ganarelle, le cocu imaginaire, l'école des maris, etc., Don Juan, le médecin malgré lui, ils ont tous un costume à peu près le même et chaque fois différent.
C'était ça, Molière, il changeait sans arrêt à vue de costume, à peu près le même, toujours différent. Il était bien meublé de meubles de noyer, de tentures et de tapisseries d'Auvergne. Il a été enterré sous quel nom ?
Jean-Baptiste Poquelin, avec le titre de valet de chambre tapissier du roi, puisque c'était sa fonction bourgeoise et anoblissante.
La charge du père.
Et voilà, c'était la fonction de bourgeoise et anoblissante. Et que comédien, c'était pas un état. C'était une profession honnie par l'Église.
Et le nom de Molière qu'il a adopté très vite, eh bien, au temps de l'illustre théâtre déjà.
C'est un nom très simple quand on regarde les noms des autres comédiens. Montfleury, Floridor, Dorimont, Beauchâteau, Larocque, c'est toujours Sieur de. Alors donc, Montfleury, c'est Zacharie Jacob, Sieur de Montfleury. Ils avaient inventé tous, depuis le début du siècle, des sortes de seigneuries imaginaires et campagnardes. Molière, c'est un synonyme de Meulière, c'est-à-dire carrière de Pierre à Meule. Il y a beaucoup de Molière ou de la Molière en France encore, de lieux-dits qui s'appellent comme ça.
Et pourquoi est-ce un nom qu'on se souvient ? Je reprends une formule qu'aimait bien Céline. Nous parlerons pour la dernière émission demain de la fortune posthume de Molière. Merci à vous, Georges Forestier. Merci. Je rappelle votre édition de la Pléiade avec Claude Bourqui. Bientôt une biographie de Molière chez Gallimard. La préparation Martin Cellier, la technique Arnaud Caillet et la réalisation signée Stéphane Ronxin.